Bien, est-ce que ça va toujours? Ok, si vous voyez que le micro est trop fort, vous dites ils vont baisser là-bas parce que moi je parle fort. Okay. En tout cas, on est très heureux d'être là ce matin avec vous, donc avec Simon et Joël. Merci. Et merci en tout cas pour. Oui. Merci pour l'invitation. Donc merci au pasteur André. Merci à Yunok aussi et son mari. En tout cas, on est très content d'être là. On a passé un excellent moment hier et je pense cet après-midi aussi, on va ensemble célébrer Dieu encore aussi cet après-midi. Et donc, je suis Rémi Connet, marié. Donc, j'ai 3 enfants, 32 ans. Et 3 enfants, Mélissa et ensuite ma fille Tara, Ézéchiel et Abel. Donc, ils ont 9, 6 et 3 ans. Donc, et je viens de l'église de Momentum, donc à Bordeaux, là où je suis en formation aussi. Je suis parti pour une formation pastorale là-bas. Et donc, je suis aussi dans l'équipe de louange. Et je suis en deuxième année là d'études de théologie. Donc, je finis cette année. Et ensuite, après, je reste dans l'église. Et puis après, je bougerai. Donc, on a un ministère aussi avec l'équipe. Je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle Alpha Musique. Et avec quelques-uns des membres, comme Simon, on a créé cette formation Onésime pour aider plusieurs églises qui avaient besoin, parce qu'en tournant un peu, en voyant ce qui se passait aussi dans d'autres églises, on a vu qu'il y avait des besoins. Et nous-mêmes, on est passé par là. De zéro, vraiment jusqu'à ce qu'on soit monté. Donc, on est très habitués à l'église aussi traditionnelle, même l'église catholique, on a tout vu. Et donc, ça permet à ce qu'on se dise, OK, on est ensemble, des frères, des sœurs, et peu importe là où on se situe, en fait, on est une même église, en fait. Okay, une même famille. Et donc, quand on se déplace pour venir ici, on n'est pas dans une terre étrangère. On est dans la famille de Dieu qui habite à Aubergenville. Donc, voilà. Voilà un peu qui je suis, brièvement. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un sujet qui a bouleversé un peu ma vie, ma vision des choses. Et forcément, c'est en rapport avec la louange. Et je ne sais pas vous, mais ça nous arrive très souvent de passer des moments de difficulté, des moments compliqués de notre existence. Et tout de suite, ce qu'on a envie de faire, c'est soit aller chercher des solutions par nous-mêmes. On veut toujours chercher des solutions par nous-mêmes. La Bible nous a donné, dans Éphésiens, des armes spirituelles pour combattre lorsque on a des luttes dans nos vies. Mais parfois, on n'a pas l'impression que ça fonctionne. Quand je me mets à prier, je n'ai pas l'impression que Dieu m'entend. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un changement. Alors, on va prier, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais j'aimerais vous parler ce matin d'une autre arme. Et c'est la puissance de la louange. J'aimerais vous parler ce matin de la puissance de la louange. Et permettez-moi de vous tutoyer quelquefois, c'est simplement parce que j'aimerais m'adresser peut-être à quelqu'un de spécifique ce matin, ok? Donc parfois j'emploierai ce pronom personnel, mais simplement pour m'adresser à quelqu'un ce matin. Amen? Ça ne vous dérange pas? N'êtes pas blessé? Non? La louange, c'est quoi? La louange, c'est lorsqu'on offre un sacrifice d'action de grâce, on remercie Dieu. On va célébrer Dieu pour ses mérites, pour ce qu'il a fait. Quand on est dans une situation difficile, on n'a juste pas envie de célébrer les mérites de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas les mérites de Dieu qu'on cherche en vrai. Ce qu'on cherche en vrai, c'est la solution à nos problèmes. Et donc, on ne va pas se mettre à dire « Seigneur, je te loue de ce que tu es bon, tu es majestueux. » En fait, automatiquement, ce n'est pas ce qui vient. C'est « S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. » On ne regarde que le problème. Et Dieu veut nous demander de faire quelque chose d'inverse. Loue-moi et vois ce qui va se passer. Que tu sois centré sur moi et regarde ensuite ce qui va se passer. On va lire en fait 2 histoires dans la parole de Dieu et on va en retirer 2 points pour nous et qui vont nous encourager ce matin. Amen. La première histoire va se trouver dans le livre des Actes des Apôtres. C'est Paul et Silas qui avaient une habitude qui a été prise. Vous savez, au début de l'Église, il y avait une habitude qui avait été prise. L'Église se réunissait dans le temple, ils louaient, ils célébraient Dieu. Ils écoutaient la parole de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était au milieu d'eux. Et donc, c'était une habitude que l'Église primitive avait déjà prise. Et à un moment donné, Paul va en voyage. Il part en voyage. Et pendant son voyage, il va vouloir partir dans un lieu où l'Esprit de Dieu va l'empêcher d'y aller. Et un jour, pendant son sommeil, il va avoir une vision. Et dans cette vision, il entend un Macédonien qui crie vers lui et qui lui dit, « S'il te plaît, aide-nous, passe en Macédoine et secours-nous. » Alors ici, Paul il va comprendre que c'est le Saint-Esprit qui veut qu'il se dirige vers la Macédoine. Donc, il emprunte ce chemin et pendant le trajet, et... Et pendant le trajet, il va y avoir une femme qui va leur suivre. Et cette jeune dame, pendant qu'ils prêchent l'évangile et ils annoncent le message de Dieu, et cette dame s'approche d'eux et elle avait un esprit de python, donc elle était possédée, elle était démoniaque. Et cette femme avait l'habitude à ce moment-là d'avoir des gens qu'on appelle des prêteurs. C'est des gens en fait qui envoyaient cette femme et elle faisait peur. Et en fait, ils faisaient comme ça pour avoir un peu d'argent. C'était un peu leur business. Ils utilisaient le diable faire leur business. C'était très dangereux. Et donc, cette femme va suivre, en fait, Paul et Silas. Elle va les suivre. Elle va toujours parler derrière. Ouais, c'est des hommes de Dieu. Ils ont été envoyés par Dieu. Écoutez-les. Mais en fait, c'était des mensonges, tout ça. Le fond n'était pas bon. Mais Paul va se retourner. Il va dire, tu arrêtes. Et en fait, il va commander au démon de sortir du corps de cette femme. Elle va être délivrée. Et là, imaginez ce qui se passe. C'est que eux, les gars, c'était leur business là. Et le business s'effondre complètement. Et ils ne sont pas contents. Et ce qu'ils vont faire, ils vont aller prendre Paul et Silas dans la place publique. Ils vont commencer à les frapper. Ils vont les amener devant les magistrats pour le Seigneur. Et ils vont commencer à être persécutés à ce moment-là. Et ils sont enchaînés. Ils sont envoyés en prison. C'est tellement pour être exécutés. Mais il est écrit, on va le lire ensemble. Non, c'est à l'envers. Que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Le premier point que j'aimerais développer avec vous, il est celui-ci. C'est que lorsque on prie, lorsqu'on se met à louer Dieu, les portes s'ouvrent et les liens sont brisés. Ils étaient enchaînés. Ils auraient pu se dire, mais Dieu, tu m'as envoyé en mission, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis persécuté? Parfois, on est chrétien et on vit dans un pays vraiment en France, dans un pays vraiment libre, où ici, on a la possibilité de pouvoir louer Dieu tranquillement. Là, il n'y a personne d'ailleurs qui va venir avec une machette ici pour nous menacer. On est libre ici. Dans certains endroits, ils ne sont pas libres de louer, d'adorer Dieu. Comme si là, à ce moment, tu parlais de Jésus, voici ce qui se passait, c'est que tu étais emprisonné, tu étais persécuté. Mais ils vont aller quand même parce que le Saint-Esprit les envoie. Ils sont dans une situation où ils auraient pu se dire, mais Dieu m'envoie, mais c'est difficile. Et peut-être que ce matin, tu te dis, mais Dieu m'a envoyé ici, ou Dieu m'a envoyé dans tel lieu, dans un travail, mais je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce qui se passe. Dieu m'a donné un ordre, Dieu m'a demandé de me déplacer pour aller dans un lieu, de faire un acte de foi. J'ai fait cet acte de foi, mais il ne se passe rien. Et tout va, les vents sont contraires. Mais est-ce que Dieu m'a vraiment envoyé? On peut avoir des doutes comme ça, des pensées de cette façon, Mais eux vont se mettre à chanter les louanges de Dieu. Tu es là, Seigneur, et tu frayes un chemin. Et pendant qu'ils chantaient, ils célébraient Dieu. Ils louaient Dieu de tout leur cœur. Seigneur, on te loue pour qui tu es. On t'adore. Et là, d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Et je crois, bien-aimé, que lorsque l'Église se met à louer Dieu, la terre, elle tremble. Pourquoi? Parce que l'enfer est ébranlé. Amen. Lorsqu'on se met à louer Dieu, le monde des ténèbres, il y a un déclenchement dans le monde des ténèbres. Et la victoire est en chemin. Amen. Lorsque tu te mets à louer Dieu, sache qu'autour de nous, il y a un monde spirituel. Dieu est en train d'exaucer ta prière. Donc, au lieu d'être focalisé sur tes soucis, tes problèmes, ce que Dieu te demande de faire, c'est de te focaliser sur lui. Et lorsqu'on met le focus sur Dieu, Dieu s'occupe de nous. Amen. Lorsqu'on s'occupe de Dieu, on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nous, les amis. Et ça, c'est une réalité. Amen. Dieu est intervenu en leur faveur. Les portes se sont ouvertes. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être tu fais un business, peut-être qu'il ne fonctionne pas. Et tu as l'impression que les portes te sont fermées. Tu as essayé quelque chose là, d'ouvrir ta boîte, et tu n'as pas l'impression que ça fonctionne. Tu n'as pas l'impression que ça avance. J'aimerais t'encourager, te dire que oui, peut-être que ça ne fonctionne pas maintenant. Mais va te mettre au pied de Jésus. Demande à ton Père. Prie, loue ton Dieu dans cette situation. Sans se plaindre. Laisse-moi te dire que lorsqu'on est focus sur Dieu, Dieu s'occupe de nous. Dieu t'ouvrira les portes. Amen. Si actuellement les portes se sont fermées, tu fais une requête à Dieu, tu lui as demandé quelque chose et les portes sont fermées, laisse-moi te dire, continue à adorer ton Dieu. Continue à venir à l'église ici et à louer ton Dieu. Et pendant que tu fais ça, Dieu lui s'occupe de toi. Amen. Pendant que tu fais ça, Dieu s'occupe de ton entreprise. Peut-être que tu es dans une relation qui a été brisée peut-être avec ton mari, ta femme, tes amis, ta famille. Mais pendant que tu loues Dieu, pendant que tu t'occupes de Dieu, Dieu va s'occuper de vous réunir. Amen. Lorsqu'on loue Dieu, les portes s'ouvrent. Maintenant, on peut se poser la question, mais Rémi, mais comment moi je dois louer Dieu? Comment je dois adorer Dieu? Est-ce que, comment je dois le faire? Dans les psaumes, il est écrit dans le psaume 105, je le lis pour nous, il est écrit, louez l'Éternel, louez Dieu, où ça? Dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance et louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Là, on va adorer Dieu à ce moment-là. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec des luths, donc c'est l'ancêtre de la guitare, avec la harpe. Aujourd'hui, on a le piano. Louez-le avec les tambourins. Aujourd'hui, on a la batterie. Louez-le avec des danses. Est-ce qu'il y en a qui savent danser ici? Je vais voir ça tout à l'heure, ok? Je le dis parce que j'ai perdu, moi, la danse là maintenant. En fait, il faut entretenir ça. Louez-le avec les instruments à cordes. On a les guitares aujourd'hui. Pour louer Dieu avec. Amen. Louez-le avec les cymbales retentissantes. C'est important. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Waouh. Si nous nous taisons dans la maison de Dieu pour louer Dieu, ce sont les pierres qui vont louer Jésus. Amen. Alors soyons ces pierres vivantes qui louent Dieu, adorent Dieu. Et lorsqu'on le fait, il y a un déclenchement dans le monde spirituel. Amen. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que la victoire est assurée dans le combat, lorsqu'on loue Dieu. Je vais vous raconter l'histoire d'un roi qui s'appelle Josaphat. Et quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez particulier. Hein. Imaginons, en 2024 aujourd'hui, on va être attaqué. Je ne sais pas, tu as fait une prophétie là, ok? C'est une illustration. On va être attaqué et on dit, le pays, donc la France va être envahie par, je ne vais pas citer le nom d'un pays, mais pas que... Un autre pays, on va dire d'une autre planète, ok. Une autre planète va envahir la Terre et on va être persécuté, donc la France est en danger ou un pays voisin. En tant qu'enfant de Dieu, comment on doit réagir? Et pensez-vous que le gouvernement va se poser la question de est-ce qu'on va se mettre à genoux pour prier, on va louer Dieu? Non. Généralement, quand tu es en danger, tu prépares la défense. Si moi, on m'attaque avec un couteau, je ne vais pas me dire, Seigneur, je te loue de ce que tu es bon. Automatiquement, je vais essayer de me défendre. C'est la première des choses qu'on veut faire. Donc, il y avait un roi qui s'appelle Josaphat. Il y avait des peuples aux alentours qui ont commencé à menacer. C'était les Ammonites, les Moanites et les Moabites ont commencé à menacer le peuple d'Israël de les envahir. Quand ils entendent la nouvelle, on va venir vous tuer tout le monde, panique à bord. Tout le monde a peur. Tout le monde est effrayé. Et le roi Josaphat est aussi effrayé. Pourquoi il est effrayé? Parce qu'il se regarde, il s'est dit, mais moi je suis petit, d'une petite tribu et d'un petit pays. Et eux, il y en a trois groupes. Comment on va faire face à cette situation? Est-ce qu'on n'avait pas vécu des situations comme ça où on a des géants devant nous? On ne sait pas comment agir. On dit, ça c'est trop gros pour moi ce problème. Je vis un combat actuellement, peut-être je prie pour mon enfant qui n'est pas à Christ, je prie pour mon mari ou je prie pour ma femme qui n'est pas encore à Christ et j'ai l'impression que ce combat, il est géant. Je prie mais rien ne se passe. J'essaie de combattre mais rien ne se produit. Et donc on est face à un problème où on se regarde, on se dit mais je ne peux pas. Mais c'est normal parce qu'on est faible de nature. Mais quand on est à Christ, la Bible déclare que nous avons l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, il est petit? Ah non, vous n'êtes pas convaincu. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, il est petit? Non, avec plus de conviction. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est petit? Non. Il est puissant. Qui a créé l'univers? C'est Dieu qui habite en toi, qui a créé l'univers. Amen. Donc si Dieu habite en moi, si Jésus, par son esprit, habite en moi, alors je suis fort. Mais lui se voyait encore petit. Mais j'ai aimé son attitude, Josaphat. Il va dire, on va faire quelque chose de dingue, les amis. Il les rassemble comme ça, il dit, hey, on va faire un truc de dingue. Regardez ce qu'on va faire. Ils arrivent, on va se réunir, on va prier ensemble. Il va réunir ses musiciens. On va le lire ensemble. Non, c'est bien avant. C'est après. Bon, je vais revenir après. Voilà. Je vais le lire pour vous. Il est écrit, alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendant de Benaja. C'était un Lévite, un descendant d'Azaph. Et Jekaziel dit, soyez attentifs, vous tous, judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. Voici un message pour le peuple. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse qui arrive, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et verset 17, il est dit, vous n'aurez pas à mener ce combat. C'est un truc de fou quand même. Il reçoit une parole d'un homme de Dieu et qui vient leur dire, écoutez, ils arrivent, mais ce ne sera pas vous qui allez combattre. On fait comment là? On va être envahis, on est en danger et on leur annonce une parole. Ce ne sera pas vous qui allez combattre. Parce que parfois on a l'impression que c'est nous qui combattons. Mais c'est la force qui est en nous qui agit. Regardez ce qui est écrit. Vous n'aurez pas à mener ce combat, prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat va s'incliner le visage contre terre et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Kéatites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et alors le lendemain, ils se lèvent tôt et ils partent dans le désert de Tekoa au moment de leur départ. Et Josaphat se tend debout et il va dire, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il va désigner des musiciens qui sont couverts d'ornements sacrés, ils vont commencer à célébrer Dieu de tout leur cœur en marchant devant l'armée qui était là. Il disait, louez l'Éternel, oui, sa bonté durera éternellement. Et au moment où ils ont commencé les chants et les louanges, l'Éternel a placé une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse. Amen. Il y a une armée qui est devant. C'est un truc de fou. L'armée part devant, eux, ils vont précéder l'armée. C'est un truc de dingue quand même. L'armée est censée être devant, et ils vont se placer devant, ils vont se mettre à louer, célébrer Dieu. Donc, il va rassembler les musiciens. C'est comme si on est en danger en France, et puis on dit, bon, on va rassembler tous les bons musiciens pour aller combattre. Non, ils vont rassembler les musiciens. Et si je veux le transposer un peu pour nous aujourd'hui, lorsqu'on a un combat, on va rassembler les musiciens. Et on va se mettre à louer, à adorer Dieu. Et pendant qu'ils sont en chemin, qu'ils louent, qu'ils adorent Dieu, Dieu place une embuscade. J'aimerais te dire, lorsque tu es en danger, tu es dans un combat spirituel et tu penses que tu n'as plus aucune issue, lorsque tu te mets à adorer Dieu dans ce lieu ou chez toi à la maison, Dieu place une embuscade contre l'ennemi. Amen. Et Dieu combat pour toi. C'est ça la puissance de la louange. Dieu combat pour toi. Pourquoi ils ont eu une telle victoire? C'est parce qu'ils ont appliqué leur cœur à adorer Dieu. Lorsqu'on applique notre cœur à adorer Dieu, il y a une réponse de Dieu, c'est « Je viens agir puissamment pour toi ». Mais peut-être que tu vas te dire que oui, je loue Dieu, mais la réponse, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Il y a un homme qui s'appelle Daniel, c'était un prophète. Et Daniel, à un moment donné, avait prié son Dieu. Il avait prié son Dieu pour une délivrance, pour une compréhension d'un texte biblique, pardon, des 70 années de captivité à Babylone, et puis devaient le retourner ensuite après dans leur pays. C'était une promesse que Jérémie avait prophétisée. À ce moment-là, il découvre les textes bibliques, et ensuite, il se met à prier Dieu pour avoir la réponse. Sauf que Dieu l'a répondu. Mais la réponse, elle tarde à venir. Mais c'est parce qu'entre-temps, il y a eu un combat spirituel entre l'ange démoniaque de la ville, là où il était, donc Babylone, et l'ange de Dieu qui apportait le message pour répondre à Daniel. Donc parfois, on peut prier comme ça. On peut louer Dieu et la réponse tarde à venir. Et comme nous, les êtres humains, on est très patients, on se dit, ça ne vient pas, il ne se passe rien. On pense qu'il ne se passe rien parce qu'on est focalisé sur nos cinq sens. Je ne vois pas, alors ça ne se passe pas. Je ne le sens pas, alors ça ne se passe pas. Je n'entends pas, alors il ne se passe rien. Non, on ne peut pas forcément capter le monde spirituel. Mais lorsque le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur le monde spirituel, et là on peut capter les choses du monde spirituel. Et c'est arrivé comme ça à Élisée avec un serviteur. Vous vous en souvenez cette histoire? Où il y a toute une armée qui vient arrêter Élisée. Et à ce moment-là, il y a son serviteur qui dit « Wow, on est foutu !» Mais Élisée, il est là, il est serein. Parce qu'il a une vision que l'autre, il n'a pas. Et il va prier, il va dire « Seigneur, est-ce que tu peux l'ouvrir les yeux, qu'il voit ce que je vois ?» Dieu l'ouvre les yeux spirituels. Pouf, il voit tous les anges qui sont là, qui sont plus nombreux que l'armée qui est présente. Donc laisse-moi t'encourager et te dire que lorsque tu loues, tu adores Dieu. Dieu déploie tout pour ta situation. Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous relever. Et alors, lorsqu'on l'adore, on le loue, on le célèbre, Dieu déclenche quelque chose dans le monde spirituel et la réponse, elle vient. Même si elle tarde pour venir, elle s'accomplira quand même. Alors, si Dieu t'a fait une promesse, sache que Dieu va accomplir cette promesse. Alors, ce matin, j'aimerais être court et te dire qu'il y a une puissance dans la prière quand l'Église aussi se réunit et se met à le faire. C'est une chose de louer Dieu tout seul, mais c'est une chose aussi de le louer ensemble. Il y a une force puissante quand on est ensemble. Il y a une église, je ne sais pas si vous connaissez l'église de Bethel. Bethel Church, donc, aux États-Unis, ou en Australie, je ne sais plus. Aux États-Unis. Et il y avait un jeune homme d'un membre du groupe de louange là-bas qui était malade. Donc, leur enfant était malade. Et quasiment, l'enfant était mort. Malade, donc à l'hôpital, mort. Et le papa a refusé que son fils ne meure. Alors, ils ont passé du temps dans une prière, donc le salle de prière, comme vous avez commencé, vous, ici à Aubergenville, ils avaient une salle de prière. Les musiciens, les chanteurs, le pasteur, les différentes équipes, ça se reliait et les gens y passaient des jours et des jours sans s'arrêter à prier, à louer Dieu et à chercher Dieu. Et figurez-vous, pendant qu'eux, ils étaient en train de louer Dieu dans la salle, à l'hôpital, il se passait quelque chose. Et il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent. Et ils ont continué à prier. On leur donne un coup de téléphone. Ça y est, ils commencent à se lever. Ben, ce n'est pas fini. On continue à prier. Ils ont continué à prier, à célébrer Dieu, à louer Dieu. Et pendant qu'ils faisaient ça, ils commencent à ouvrir les yeux. Ça y est, il est revenu. Et ensuite, il faut qu'ils se lèvent. Ils commencent à marcher. Et pendant qu'ils louent, ils prient, l'enfant se lève de son lit et il commence à marcher. Il est ressuscité. Il était mort et il a été ressuscité. Oui, ça existe encore aujourd'hui au 21e siècle. Amen. Il y a une puissance et ça a donné le chant I raise to the hallelujah. J'élève un hallelujah. Et cet homme-là a écrit ce chant et il y a eu des millions de personnes qui l'ont écouté et ça a changé de millions de vies. Mais parce que l'Église s'est réunie et ils ont commencé à prier, ils ont refusé et ils ont combattu. Alors j'aimerais vous laisser ça dans votre cœur. Je ne sais pas ce que vous traversez maintenant, mais sachez que Dieu est capable de frayer un chemin pour toi. OK? Que ce soit dans ton entreprise, dans ta famille, dans ce que tu es en train de traverser actuellement, Dieu est en train de s'occuper de toi si toi, tu t'occupes de lui. OK? Continuez à servir Dieu dans cette église. Cette église a besoin de vous. Dieu a besoin de vous, pas parce que vous êtes indispensable, mais parce que Dieu veut que vous fassiez partie de la barque. Okay? Dieu a besoin que vous soyez avec lui. Cette ville qui est là a besoin qu'ici, il y a quelque chose, a besoin de savoir qu'ici, il se passe quelque chose. Et qu'ici, cette ville-là, on prend possession de cette ville. On prie, on déclare des choses. Et je veux que ce lieu-là, mon désir, c'est que ça soit rempli des gens qui passent de la mort à la vie. Amen. Et ça passera aussi par ces moments de louange, d'adoration, des moments de prière en communion ensemble. Et lorsqu'on l'Église d'un même cœur se lève et fait cela, c'est là qu'on voit une différence. Amen. Donc j'aimerais prier avec vous. On peut fermer les yeux ensemble. Et peut-être que quelqu'un dans ce lieu, pendant que les yeux sont fermés, se dit, je passe peut-être par un moment de découragement à ce moment et j'ai besoin de prière. J'ai besoin que Dieu réponde à ma prière. J'ai besoin que Dieu se révèle à moi. Et là, je suis comme dans un combat, dans une difficulté en ce moment. Et j'ai besoin que Dieu puisse me frayer un chemin. Et peut-être tu cries à Dieu. Lorsque tu rentres à la maison, chez toi, tu cries à Dieu. Tu es dans ta chambre. Tu es seul. Et tu pleures devant Dieu pour cette situation. Tu pleures devant Dieu. Et tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. J'aimerais t'encourager et te dire que Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Tu pries pour ce fardeau que tu as dans ton cœur, cette chose que tu as du mal à laisser. Tu as du mal à laisser cette chose qui te bousille la vie. Tu as du mal à laisser ce péché qui t'empêche de rentrer dans une dimension spirituelle encore plus grande. Et tu as l'impression que tu juges par rapport à ça. J'aimerais te dire que non, tu dois continuer à combattre cela, mais à combattre d'une bonne manière. Donc si tu es dans ce lieu et que tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on puisse prier avec toi pour cette situation que tu traverses, tu vas simplement lever ta main là où tu es, spontanément. Je t'ai vu. Je t'ai vu aussi également. Je t'ai vu aussi. Je t'ai vu. Vous pouvez baisser la main et je vais prier avec vous. Seigneur, toi seul connais la situation que traversent ces gens. Je te présente mes frères, je te présente mes sœurs qui ont levé la main et qui crient à toi et qui ont besoin que, Seigneur, tu agisses pour elles. Père, je te prie que tu agisses puissamment. Père, nous avons confiance en toi et que tout ce qui a été mort puisse revivre au nom de Jésus et que ce qui a été desséché puisse reprendre vie. Viens souffler maintenant, Saint-Esprit, sur leur vie. Père, viens opérer le miracle au nom de Jésus. Viens frayer un chemin, Seigneur mon Dieu, là où tout a été fermé, que ce soit pour le travail, dans la relation. Viens maintenant ouvrir les portes, Seigneur Jésus. Ouvre les écluses des cieux pour que Dieu il se passe quelque chose et qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après et que là où l'ennemi a mis sa main, là où l'ennemi a bloqué les choses, je prie, je vais déclarer maintenant sur leur vie que cela soit vaincu et que le combat dans lequel ils sont actuellement, Dieu, qu'ils voient l'issue de ce combat. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, de leur cœur pour qu'ils comprennent. Ouvre, Seigneur mon Dieu, leurs yeux pour qu'ils voient que Dieu est en train d'agir en leur faveur. Et guide-les, Seigneur. Accompagne-les, réconforte-les et donne-leur un encouragement, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, tu as été promis. Tu es le consolateur, celui qui nous encourage. Alors viens donner vie à tous ceux qui ont besoin de vie et viens nous aider à combattre par la foi dans la louange avec toi. Et si on est d'accord, on dit Amen ensemble. Merci de m'avoir écouté.